Le festival littéraire Lettres d'automne, ce sera du 18 novembre au 1er décembre, 23e édition de ce festival consacré donc à Albert Camus, notre contemporain. À cette occasion, Maurice Petit, directeur artistique de Confluence, nous fait le plaisir de nous raconter assez rapidement, assez succinctement, en 4 épisodes, la vie d'Albert Camus. Aujourd'hui, 3e épisode, 1946-1953. Alors, que se passe-t-il en 46 dans la vie d'Albert Camus qui aujourd'hui est marié, vit à Paris et a déjà édité la plupart de ses romans.
Il a édité tout le cycle, voilà, tout le cycle de l'absurde est édité, ça a eu un énorme succès et donc en 46, Camus est un écrivain célèbre de 33 ans. Il travaille encore à Combat, il est encore rédacteur en chef de Combat. Il fait des voyages de par le monde, il va découvrir les USA, des cycles de conférences, etc. Ce qui est important à noter, c'est que s'il est encore aujourd'hui l'écrivain français du 20e le plus lu dans le monde, c'est à cause de les nombreuses traductions qui ont été faites de ses ouvrages de par le monde, dans des langues vraisemblables. Et donc aux États-Unis, par exemple, il a tout de suite eu beaucoup de succès. Aux États-Unis, c'est important, évidemment, au niveau des ventes. Et donc c'est pour ça qu'un de ses tout premiers voyages est dans différents sites culturels et autres, et universitaires, aux États-Unis, autour du cycle de l'absurde. 46, c'est aussi sa rencontre avec le poète René Char, qui sera probablement l'un de ses amis les plus proches. René Char, dont Camus fait publier par Gallimard, à cette époque-là, Fureur et Mystère. Lorsque Camus choisira, plus tard après le Nobel, d'habiter en Provence, il avait cherché une maison, il avait cherché à se rapprocher de son ami René Char. C'est aussi le moment, on est juste dans l'après-guerre, les blocs idéologiques, ça y est, sont constitués entre l'URSS, les USA, et Camus refuse les deux. C'est-à-dire, autant le capitalisme très libéral du plan Marshall, etc., et autant le communisme de l'autre côté, qui était censé nous réserver des jours meilleurs, Camus rejette tout de suite ces deux blocs dans la mesure où il les trouve aussi redoutables l'un que l'autre. Il faut savoir que très vite, très vite, l'idée de la réalisation des goulags en URSS sera assez vite connue, perçue. Lui-même s'en offusquera, alors que d'autres, je pense par exemple à Paul Éluard, qui le savait, mais ne voulait pas trahir son église. Bon, lui, il n'a pas d'église à trahir ou pas, il n'est pas adhérent au Parti communiste, mais à cette époque-là, ça va lui attirer pas mal de foudre côté de la gauche nouvelle, comme il le disait lui-même, moi je suis de l'ancienne.
Mais est-ce qu'il faisait de la politique ou pas, finalement?
Non.
Est-ce que c'était un... Est-ce qu'il
non,
avait,
non, pas
sa,
du tout.
Sa parole avait valeur politique?
Non, ou... c'était, non. C'était quelqu'un... Oui, ça oui. Je pense que oui. Sa parole était interprétée par les politiques. Lui-même n'a jamais eu... Il faisait de la politique dans la mesure où il avait des idées là-dessus et il écrivait là-dessus. Il y a eu des essais, divers essais comme actuels. Par exemple, si, pour aller dans votre sens... Tous les éditoriaux de Combat, comme tous ces articles-là, ont été publiés en recueil. Ce qui veut dire quand même que ça a un intérêt, entre guillemets, politique profond. Mais bon, c'est d'une certaine hauteur.
Mais il n'était pas ni encarté, finalement, ni aux commandes, ni un élu, quelque part.
Pas du tout. Il était surtout très attaché à ses libertés à ce moment-là, et à se sentir libre par rapport à quiconque. Et quand il interviendra à nouveau dans d'autres journaux, ce sera pour des raisons précises dont on parlera tout à l'heure. En 47, c'est à la fois la fin de Combat et c'est la publication de La Peste. Si L'Étranger a eu beaucoup de succès à la fin de la guerre, La Peste en a encore plus. La Peste a été un succès énorme de par le monde, cette sorte de fable sur le problème du mal qui s'abat sur une ville, qui était évidemment, entre autres, une métaphore sur le nazisme qui venait de s'abattre sur l'Europe, et Camus traduit ça par une épidémie de peste, pas peste noire, mais peste tout court, qui s'abat sur la ville d'Oran. 48-49, le théâtre, avec Les Justes, il écrit Les Justes, et il met souvent en scène aussi lui-même. Hein, il brûle parfois d'envie dans sa vie de rejouer, mais il est célèbre, il est un écrivain célèbre, il est jeune, il veut pas avoir l'air d'en faire trop par rapport au public, etc. Il se dit, si je me mets à faire l'acteur, qu'est-ce qu'on va pas dire? Déjà qu'on trouve tous les péchés du monde, qu'est-ce qu'on va pas dire? Et donc 51, et publier cet essai, L'homme révolté, le développement autour de sa pensée, ce qu'il appelait la pensée de midi, c'est-à-dire la pensée de la mesure, par référence au philosophe grec. C'est à cause de la publication de L'homme révolté qui s'en prend, entre autres, violemment au communisme et à l'idéologie qui est à ce moment-là sur l'URSS, etc., et aux conséquences que ça a, enfin sur les goulags, etc., que Sartre monte au créneau dans sa revue Les Temps modernes, et il y a donc cette querelle très virulente entre Sartre et Camus à ce sujet, qui officiellement demeureront ensuite très fâchés, sauf que Sartre, au moment de la publication de La Chute, plus tard dira « c'est le meilleur bouquin de Camus », etc. Et puis, étonnamment, à la mort de Camus, le plus bel article d'hommage serait écrit par Jean-Paul Sartre. Bon, bref, hein, ça c'est les complexités de l'âme humaine. Et donc, cette querelle avec Sartre va beaucoup le toucher, parce que il est quand même assez, il est vite blessé par toutes ces attaques, parce qu'il sent, dans le milieu intellectuel parisien, qu'il ne fait pas partie du clan. Il fait pas partie du clan parce qu'il est pas agrégé de philosophie, il est même pas parisien. Vous vous rendez compte?
Son côté pied noir, il y a un racisme ou pas à cette époque-là?
Oui, Mais Sartre le décrit souvent comme il dit que Camus est une espèce de petit voyou d'Alger qui se déguise en Humphrey Bogart avec un petit chapeau, la cigarette au bec et l'imperméable, etc. Il est méprisant par rapport à Camus. Il est méprisant et admiratif, mais admiratif, il le cache. Il ne le dévoilera que après la mort de Camus. Comme le personnage, le héros de La Chute de Camus le dit dans le texte, comme nous aimons nos amis au moment où ils meurent. C'est incroyable comme on les aime à ce moment-là. Cette querelle va laisser beaucoup de traces. Camus est à ce moment-là, il est détesté par l'extrême droite, il est détesté par l'extrême gauche, il a peu d'amis, si, il a des amis, des vrais, mais c'est des amis, il y a René Char, il y en a d'autres, mais dans les milieux politiques, ça tire dans tous les coins. Et donc, où est le refuge à ce moment-là? Eh ben, le refuge, ça va être le théâtre. Et il prend la direction du Festival d'Angers, où il va mettre en scène 4-5 pièces qu'il adapte lui-même, d'auteurs espagnols, entre autres, Lope de Vega, Calderón, etc. 1943, il est directeur du Festival d'Angers. Il le sera directeur pendant 2 ans.
1953.
J'ai dit 1953.
Le cinéma, à cette époque-là, ça n'intéresse pas à Albert Camus?
Ah, ça a failli. Vous étiez au courant ou pas? Non. Ben, le film Moderato Cantabile, l'adaptation du bouquin de Duras dans lequel a joué Belmondo, c'est Belmondo qui a tenu le rôle. Le réalisateur, Peter Brook, avait à un moment pensé à faire tenir le rôle par Camus. Il a hésité. Il en brûlait d'envie. Il a refusé. Il y avait un projet d'adaptation de La Chute au cinéma, où il aurait été évidemment Clamence, c'est-à-dire le principal, le héros de l'histoire, si on peut dire. Il a refusé au dernier moment, mais l'envie ne lui en manquait pas, oui. Après, les adaptations au cinéma de certaines de ses œuvres, ça c'est après sa mort.
Sinon, c'était peut-être pas assez digne pour lui.
Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on va encore dire de moi? Il n'avait pas du tout cette forme de prétention. C'était quelqu'un d'extrêmement simple dans les rapports. Non. Ah oh, non, pas de ça chez lui. Non.
Bon, il voulait pas prêter le flanc, en fait.
Il voulait pas prêter le flanc. Voilà. Il se sentait déjà suffisamment critiqué comme ça. Alors vous rendez compte, en plus, si le petit voyou pied noir se mettait à faire l'acteur, qu'est-ce qu'on allait dire?
Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On est en 1953. Dans le prochain épisode, on abordera jusqu'en 1960 la suite de la vie d'Albert Camus. Je rappelle que vous nous faites le plaisir de nous raconter Albert Camus, Maurice Petit, à l'occasion du 23e Festival Lettres d'Automne qui va se dérouler du 18 novembre au 1er décembre. À bientôt.
À bientôt.